Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Que Dieu soit béni. J'aimerais vous inviter à lire un bouquet de passages qui me servent d'introduction. D'abord, Genèse au chapitre 3, du verset 7 au verset 11, troisième chapitre de Genèse. Nous partons du 7e verset au 11e verset. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Lisons aussi le deuxième livre de Samuel, au chapitre 11, et là nous lisons du premier au quatrième verset. De Samuel 11, premier, quatrième verset. J'aime bien entendre quand les feuilles tournent comme ça. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. Et David envoya des gens pour la chercher, elle vint vers lui, il coucha avec elle, après s'être purifiée de sa suie, elle retourna dans sa maison. Nous lisons l'avant-dernier passage dans l'évangile de Jean, chapitre 21, et là nous lisons le seul verset 7e, Jean 21, le seul verset 7. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Et enfin nous lisons, en Timothée chapitre 2, du verset 9, au verset 10, 1 Timothée chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Si ma comptabilité est bonne, c'est depuis 6 semaines que nous parlons sur le thème une loi importante, mais négligée, la loi de l'honneur. Et en ce jour, nous allons aborder un autre aspect que j'avais même déjà mentionné la fois dernière. Nous allons aborder l'aspect de l'honneur et la pudeur. L'honneur et la pudeur, c'est-à-dire l'honneur attaché à la gestion de notre corps par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Romains chapitre 13, verset 7, qui est notre passage de base depuis le départ, nous dit, rendez honneur à qui vous devez honneur. Et là, il est parlé de l'honneur, non pas que nous devons à des personnes extérieures à nous d'abord, mais l'honneur que nous devons d'abord à nous-mêmes. L'honneur que nous devons à nous-mêmes. Et cela me permet, avant de toucher des points que j'estime essentiels, ou placer un peu comme des fondements ou des fondations de ce message, essayer de nous mettre d'accord sur le contenu du terme pudeur. C'est quoi la pudeur? Et je prends 4 directions pour essayer de définir la pudeur. Premièrement, la pudeur, c'est une disposition qui peut être innée, acquise ou travaillée. Mais la plupart des fois, elle est plus acquise et plus tard travaillée. Donc c'est une disposition qui peut être innée, acquise ou travaillée, mais qui pousse à se retenir, de montrer, d'observer et de parler de certaines choses, dispositions innées, acquises ou travaillées, qui poussent à se retenir, de montrer, d'observer ou de parler de certaines choses. Et la plupart des fois, des choses attachées au sexe ou à la sexualité. dans cette disposition, nous donne une certaine retenue à observer, à parler ou à montrer. Deuxième direction que je prends pour définir la pudeur, c'est un sens élevé de l'honneur qui pousse à ne pas faire certaines choses, qui touche à la dignité. Sens élevé de l'honneur qui pousse à ne pas faire certaines choses et la plupart des fois des choses qui touchent à la dignité personnelle, au respect que l'on se donne soi-même et que l'on veut que les autres puissent nous donner. La troisième définition, ou troisième direction que je prends pour définir la pudeur est aussi une attitude qui pousse une personne à établir un ensemble de limites imaginaires autour de lui-même pour maîtriser l'intrusion du regard des autres. La pudeur est aussi une attitude, la plupart des fois attachée au corps, qui pousse une personne à établir un ensemble de limites, mais je dis des limites imaginaires, autour de lui-même pour maîtriser l'intrusion du regard des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on ne peut pas toujours savoir où le regard de l'autre va s'arrêter. Alors soi-même, on crée des limites. On dit, je lui permets de regarder de là jusque là. Ça, je ne lui donne pas accès. C'est-à-dire, on contrôle les regards de l'autre en lui disant, tu iras de là jusque là et pas plus loin. Mais quand on n'établit pas cela, on veut dire, je te permets, regarde même ça. Ça aussi, tu as le droit de voir. Le but, parlant de cette troisième direction, est de préserver un capital d'intimité, pour lequel c'est soi-même qui décide qui y a accès et quand. Il y a des gens qui n'ont aucun capital d'intimité. Tout est vu par tout le monde, n'importe quand et n'importe où. Parce qu'il manque pudeur. Il manque un sens de l'honneur élevé. Et je suis chaque fois triste que ces choses se passent dans le monde, je comprends. Mais le plus triste, c'est quand je les vois à l'église. Parmi les enfants de Dieu, surtout parmi les jeunes filles. Et pire encore, quand c'est une femme d'un certain âge. On se demande qu'est-ce qu'elle cherche. Qu'est-ce qu'elle veut. Et pire encore, quand ça touche ceux et celles qui sont dans l'œuvre de Dieu. Aide-moi à poser la question à ton voisin. La pudeur, ça te dit quelque chose? Quatrième direction que je prends pour définir la pudeur, c'est une attitude qu'a une personne pour qui la décence est une vertu importante. Attitude qu'a une personne pour qui la décence est une vertu importante. Et cela se montre par la retenue, la discrétion en rapport avec l'intimité. Et dans la pudeur, il y a certaines notions importantes qu'il nous faut avoir en tête. Là où la pudeur est pratiquée, on se dit toujours, à qui je montre quoi? Et deuxième notion attachée à la pudeur, c'est le choix du cadre pour faire certaines choses. Ça, je peux porter à tel endroit, mais ça, je ne peux pas porter à tel autre endroit. Ça, je peux montrer à telle personne, mais ça, je ne peux pas montrer à telle personne. Et les trois textes que nous avons lus nous montrent deux personnes qui avaient le sens de la pudeur et une qui n'en avait pas. On voit l'apôtre Pierre qui est en train de pêcher. La Bible dit qu'il était nu, mais il n'était pas totalement nu. Il était resté simplement en sous-vêtements. Mais bon, dans les Juifs, ils sont tellement pudiques que des fois, ils appellent la nudité totale ce qui est une nudité partielle. Mais remarquez une chose. Il est devant le maître qui depuis 3 ans marche avec eux. On peut dire qu'ils sont presque amis. Ils n'ont presque pas de secrets. Mais quand il était en train de pêcher, il était en sous-vêtements. Quelqu'un est apparu qui les a aidés à faire un miracle. Mais après, quand on lui dit, c'est le Seigneur. La Bible dit directement qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas voir ça. Je ne peux pas me présenter devant lui dans cette tenue. Non, 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 non. Je me souviens, il y a plusieurs années, nous étions chez nous à la maison. C'était un avant-midi, je pense, mon épouse était sortie. À l'époque, elle faisait un travail comme enseignante. Et puis, on m'a annoncé à la porte, le pasteur Jacques-André Vernoy est là. J'étais en grosse culotte, c'est le quinoa des Mogondo. Est-ce que si je me présentais devant lui comme ça, j'irais en enfer pour autant? Dès que j'ai appris chez lui, j'ai couru, j'ai failli même tomber. Je suis allé m'échanger. Pourquoi je me dis par rapport à ma valeur, je ne peux pas me présenter devant lui comme ça. Mais par rapport aussi à la valeur que je lui accorde, je ne peux pas me présenter de la sorte. Mais cette tenue, je peux la porter devant ma femme à la maison. Je fais même des défilés. Je peux me demander, chérie, au monde, Je peux me présenter comme ça devant mes filles qui peuvent me voir. Alors vous voyez comment papa est un athlète. Et Pierre, il avait cette notion de la pudeur. C'est le maître, il se cache. Nous en parlerons tout à l'heure parlant d'Adam et Ève. Ils se sont cachés. Et la Bible montre, ils ont caché certaines parties intimes. Pour dire, ça c'est, on ne doit plus les voir. Mais en même temps, nous voyons une femme qui n'avait pas une notion de la pudeur. Bathsheba. N'y avait-il pas de douche? N'y avait-il pas d'endroit où on pouvait se laver? Oui. Mais elle est allée se laver à un endroit visible. Comme une fois quand j'étais en Bandaka. J'avais une chambre qui donnait sur une fenêtre. Et quelqu'un était en train de se laver en disant, « Yaofele! Yaofele! » Frère de Mbandaka, pardonnez-moi. Ça peut se passer aussi à Lodja. Mais ça se passe surtout en Mbandaka. Choix des cadres pour faire certaines choses. Et troisième notion importante attachée à la pudeur, c'est que la pudeur fait que quand il y a intrusion et regard à un endroit que les autres n'auraient pas pu avoir, il y a un sentiment de honte. Un sentiment de honte que l'on ressent. Je me souviens d'un ami, pasteur, qui m'a dit un jour, il était pasteur aux États-Unis. Il m'a dit juste à peine il voulait prêcher, et puis il a eu quelques problèmes de digestion. Son ventre a commencé à faire goudoudoudoudoudou. Il avait un micro sans fil. Il avait déjà ouvert pour prêcher, il a dit au protocole, deux cantiques, je vais aller rapidement au coin. Je vais me soulager. Et le comble, c'est quand il est allé au petit coin, il a oublié de fermer le micro. Donc, tout ce qui se faisait par là, je ne vais pas vous parler de cette musique. L'auditoire entendait. Et c'est quelqu'un qui est venu en tout cas en disant, pasteur, il a crié, mais pourquoi tu me déranges? Tout le monde a encore entendu. Il dit, Kanga Miko. Il dit, Bazo Yoka. Alors lui-même, il dira, quand il a fermé les micros, il est sorti, il a dit à son adjoint, paye à l'élo. Est-ce qu'on peut encore avoir l'onction? Tu te tiens là, tout le monde s'imagine. Pourquoi? Ce sont les mêmes choses que tu fais. Mais le seul problème, c'est qu'il y a maintenant l'aspect publicité. Des gens qui n'auraient pas dû entendre cela, des gens qui n'auraient pas dû voir cela, des gens qui n'auraient pas dû être au courant, sont au courant. Il a dit, il m'a fallu 3 semaines. Il a combien de temps avec l'église, mon sens? Étant gravité, c'est là la montée, Manaka et Bogo. Je lui ai dit, toi tu es fort, si c'était moi je partirais en année sabbatique. Chaque fois qu'il y a intrusion, il y a comme une honte. Mais ce qui est triste, il y a des gens qui ne ressentent jamais la honte. Jamais la honte d'exposer certaines choses. Jamais la honte de faire que certaines choses soient vues en public. Certains semblent même qu'ils en trouvent la joie. Et moi je me pose la question, est-elle réellement née de nouveau? Dans Isaïe chapitre 47 au verset 3, Dieu dit, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. Donc, la nudité est attachée à la honte. Ces choses qui n'auraient pas dû être vues, quand ça s'est vu, il y a une honte. Dans Lamentations chapitre 1 au verset 8, parlant de Jérusalem, Dieu dit, tous ceux qui t'honoraient et méprisent parce qu'ils ont vu ta nudité. Parce qu'il y a des choses auxquelles ils n'auront pas dû être exposés, est exposé. Quatrième notion importante avant que je revienne à certaines choses que j'estime être base, c'est que ce sentiment de honte dans la présence de quelqu'un pour qui a eu intrusion des regards d'autres personnes montre la valeur que la pudeur a à ses yeux. Le fait d'avoir cette honte, le fait de souffrir, qu'il y a eu un regard, qui a vu quelque chose, qui a entendu quelque chose, qui a été au courant de quelque chose qui n'aurait pas dû l'être, nous dérange. La question que j'aimerais te poser, me poser, nous poser, est-ce que nous sommes dérangés? Est-ce que nous avons un sens de l'honneur attaché à nous-mêmes? Et ce matin, il est bon que nous puissions nous rappeler certaines vérités importantes et incontournables attachées d'abord à notre position d'enfant de Dieu. Et vers la fin, je prendrai 4 choses qui vont nous aider à mieux voir encore par rapport à la pudeur. La première notion importante qu'il nous faut voir, incontournable en tant qu'enfant de Dieu, c'est que pour tout véritable enfant de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu est le moteur et la base de sa marche. C'est-à-dire il fait les choses par rapport à ce que la Bible dit, par rapport à ce que la Bible accepte, par rapport à ce que la Bible autorise, par rapport à ce que la Bible permet. Un prédicateur disait, si Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Il doit être Seigneur de mon habillement, il doit être Seigneur de ma présentation, il doit être Seigneur de mon langage. Et quand on est véritablement né de nouveau, la nouvelle naissance touche chaque aspect de notre vie. Et désormais, nous commençons à nous regarder par rapport à la parole de Dieu. Ce que je veux porter, qu'est-ce que la Bible dit? Ce que je veux mettre, qu'est-ce que la Bible dit? Ce langage que je veux avoir, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Psaume 119, au verset 9, le psalmiste pose une question à laquelle lui-même répond. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit en se dirigeant d'après sa parole. Amen. J'aimerais te poser, me poser, nous poser la question. Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Ou nous marchons selon nous-mêmes? Ou nous marchons selon le monde? Qui contrôle? Qui dirige? La Bible est-elle la constitution de ta vie à laquelle tu adhères? Et des fois tu adhères sans que ça te fasse plaisir. Il y a des choses que je fais, non pas parce que je veux, mais je le fais parce que la parole de Dieu m'oblige. Il y a des fois l'humain que je suis, je n'ai pas envie de faire certaines choses, mais je le fais par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est la boussole de ta vie? Voulant montrer la force et la capacité qu'a la parole de Dieu de nous influencer, l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, il dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Voilà ce que la parole de Dieu fait. Et le but au verset 17, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, et tout cela part de la parole de Dieu. » Et pour connaître ce que la parole de Dieu dit, il faut la lire, il faut la méditer, il faut être en contact avec celle-ci. La Bible parle de tout, parle de l'habillement, parle du langage, parle des distractions. La Bible parle de tout. Alors, véritablement tout. Elle parle de comment vivre ses fiançailles. J'aime ce que la version Alfred Poinet dit du verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Car l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et nous convaincre de péchés. Pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. Ça, j'aime. Rectifier nos pensées. Les remettre sur le bon chemin. Et Alfred Poinet va plus loin en disant, elle nous aide à réformer notre conduite. Et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. J'aime. Elle nous aide à réformer notre conduite. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous aide à réformer notre conduite. Deuxième notion importante que j'aimerais que nous puissions nous rappeler ce matin, c'est que tout véritable enfant de Dieu doit avoir conscience de son rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire représentant un royaume, appelé à montrer à quoi ressemblent ces royaumes ainsi que ses citoyens. Si je me présente comme étant un enfant de Dieu, je dois avoir conscience que les gens jugeront les autres enfants de Dieu sur base de moi aussi. N'a-t-on pas tendance à dire chez nous au pays, Mukongo Mouga Fingisa? La Congo Nyos. Mon Luba Moga Fingisa, la Luba Nyos. Mon Tete la Moga Fingisa, la Tete la Nyos. C'est un qui s'est mal conduit, mais désormais on attache cela. Ambassadeur. Les gens se font une idée du Congo sur base de ce que nous en voyons. Notre ambassadeur au Kenya, notre ambassadeur au Malawi, dont l'idée c'est quoi les Congos et c'est quoi les Congolais. J'aime quand Asaph veut mal agir. Lui-même, il dit, j'étais sur le point de tomber. Mais j'aime ce qu'il dit. Il dit, si je dis que je parlerai comme eux, je trahirai la race de tes enfants. Je trahirai. L'acte sera mien, mais la trahison, le mépris, tombera sur tous ceux et toutes celles qui s'appellent enfants de Dieu. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, l'apôtre dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons un appel de montrer une qualité de vie. Dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, Christ parlant à ses disciples va leur faire comprendre encore cela. Il dira, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes appelés à éclairer. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et j'aime encore ce qu'il ajoute au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Amen. Dans Philippiens chapitre 2, verset 15, l'apôtre abonde dans le même sens. Il dit, soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. C'est à cela que nous sommes appelés. Et en tant qu'ambassadeur de Christ, nous devons avoir un style de vie, une qualité. Et cela attire la gloire de Dieu. Dans Job chapitre 2, verset 3, nous voyons comment Dieu est glorifié. Non pas à cause des anges, mais à cause du style de vie qu'il voit chez un de ses ambassadeurs. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu combien il est intègre, droit, juste, craignant Dieu, se détournant du mal? J'aimerais que tu te poses la question, est-ce que Nzambabe te la raoto? Est-ce que Dieu du haut des cieux peut dire au monde des ténèbres, as-tu vu ma fille? Tu as vu comment elle se comporte? Tu as vu son style de vie? As-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon enfant? Ah, je prie qu'il puisse les dire de moi, comme il a fait pour Job. Troisième notion, c'est que la volonté est le rêve de Dieu, et que par notre qualité de vie, son nom soit loué, vanté, et que son étendard soit hissé très haut. Ça, c'est le rêve de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 43, au verset 7, parlant d'Israël, le Seigneur dit, tout ce qui s'appelle de mon nom, une autre version dit, tout ce qui porte mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire. Il parle d'Israël. Le mot gloire, là, en hébreu, ça veut dire kabod, poids. Il dit, je les ai créés pour que j'aie du poids aux yeux des gens. Je les ai créés, je leur ai fait porter mon nom, afin qu'aux yeux des gens, j'ai du poids. Que je puisse peser. Que les gens puissent dire, waouh! Être enfant de Dieu, c'est ça. Est-ce que ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu, a du poids à cause de toi et de moi? J'ai été béni au début de cette église. Un homme est venu me voir. Peut-être qu'il est là ce matin. Et depuis lors, il est resté à l'église. Il était dans un bus et il avait un appareil de téléphonie cellulaire qu'il a acheté à plus de 1 200 $. Et il était dans un taxi avec un jeune homme. Et par mégarde, il a oublié cela. Et quand il est descendu, 10 minutes après, il a reçu un coup de fil. C'est ce jeune homme qui est dans cette église. Il peut sûrement aussi m'entendre. Il a appelé le numéro, je ne sais pas comment on fait pour retrouver. Monsieur, j'étais avec vous dans le même taxi. Et j'ai retrouvé votre téléphone. Vous habitez où, je peux vous l'amener. Il dit, il ne croyait pas. J'entends quelqu'un dire, on gagne la chayango. Mais on fait sa dîme. Le méchant masse c'est pour les justes. Toute chose concourt au bien. Ce monsieur m'a dit, quand ces jeunes sont venus me remettre, j'ai dit, des gens comme ça, ça existe. Il me dit, ça sont les extraterrestres. J'aimerais te poser la question sans t'obliger de répondre. Si c'était toi, tu aurais fait quoi? Il ne me répond pas. Et cet homme m'a dit, je voulais aller voir son église. Peut-être qu'il est là. Et depuis lors, il est resté. Dans Actes 4, verset 13, la Bible est parlant des apôtres, dit cette belle phrase. Il est dit, les autres les reconnurent pour avoir été avec Jésus. On voyait du Christ en eux. On voyait les mêmes attitudes, les mêmes attributs qu'il y avait chez Christ, on les retrouvait chez eux. Du reste, en Antioche, pour la première fois, on a appelé les disciples chrétiens. Des Christ en miniature. Dans Pierre chapitre 2, verset 12, l'apôtre dit, ayons au milieu des païens une bonne conduite. Est-ce que tu as une bonne conduite? Est-ce que j'ai une bonne conduite? Afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il visitera. Est-ce que j'ai une bonne conduite? Est-ce que nous avons une bonne conduite? Quatrième notion qui nous est important de connaître, c'est que dans la pensée de Dieu, les véritables enfants de Dieu, dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait, doit penser aux intérêts des deux groupes. Dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait, doit penser aux intérêts des deux groupes. Premièrement, les intérêts de Dieu le Créateur. Et deuxièmement, les intérêts des autres. Est-ce que Dieu gagne dans ce que je suis? Dieu gagne dans ce que je fais? Mais deuxièmement, est-ce que je ne fais du mal aux autres? Est-ce que je scandalise? C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 31 et 32, nous voyons ces deux principes se retrouver. L'apôtre dit ceci, soit que vous mangiez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. J'allais même dire, soit que vous vous habillez, soit que vous parlez, faites tout pour le poids de Dieu. Faites tout pour que Dieu ait un poids. Est-ce que Dieu a un poids dans ton habillement? Dieu a un poids dans ta présentation. Faites tout pour la gloire de Dieu. Une autre version dit, agissez en tout pour la gloire de Dieu. Mais la deuxième notion, le deuxième aspect, c'est ne soyons en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc, premièrement, les intérêts de Dieu, mais deuxièmement, les intérêts des autres. Je le fais pour la gloire de Dieu, mais j'essaie de m'imaginer, est-ce que je vais scandaliser quelqu'un? Ni les Grecs, ni les Juifs, on dit même l'Église de Dieu. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais responsable numéro un de la jeunesse. Un frère qui était en Europe, bof, sûrement il était devenu hyper moderne. Il m'a envoyé deux choses. Il m'a d'abord envoyé un ensemble de cuirs. Un ensemble en cuir qui, en général, ceux qui font les rock'n'roll portent. Avec plusieurs fermetures compliquées. Et une paire de chaussures qu'on appelait à l'époque Dr. Martens. Grosse et puis devant, quelque chose en fer. Il m'a même écrit, quand il a écrit, « Passe ta bête en gros samedi, mon roi jeunesse. » Est-ce que si je me présentais comme ça, j'irais en enfer? Nullement. Est-ce que l'onction va baisser au moment où je porte le message? Nullement. Mais je pense aux faibles. Je me dis, si le pasteur vient en cuir comme ça, et docteur Martin, il faudra attendre le samedi qui va venir. Ceux qui hésitaient dans certaines tenues, iront les faire ressusciter. Vous verrez, papa verront venir avec une démarche changée. Il dira, mais pasteur, moi, Fongoline, c'est là! Je pense pas seulement à moi. Je pense aussi aux autres. Ne soyons en scandale, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni même à l'Église de Dieu. Dans Romains chapitre 14, verset 13, Paul va faire cette déclaration. Pensez plutôt à ne rien faire, qu'il soit pour votre frère plutôt une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Est-ce que dans ce que je fais, je pense aux autres? Hey, qui fait dans mon papa? Ah non, si tu fais ça, j'ai doute de ta conversion. Un véritable enfant de Dieu, une véritable enfant de Dieu, dit non. Qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que les autres vont penser? Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 24, l'apôtre abonde dans le même sens lorsqu'il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt d'autrui. Et parlant aux Philippiens, Paul leur dira dans Philippiens 2, verset 4, il enfonce les clous. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ne peut le faire que celui qui est véritablement enfant de Dieu. Il dit, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Ah, je me souviens au début de ma conversion, du reste, ma mère me l'a rappelé il y a trois mois.